Bonjour Daniel Obono.
Bonjour.
La NUPES a tenu hier son séminaire de rentrée à quelques jours de la nouvelle session parlementaire. Cette alliance de partis de gauche avait été constituée, on s'en souvient, pour la bataille des élections législatives. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une envie de rester unis, une envie d'avancer ensemble ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous l'avons exprimé à plusieurs reprises déjà, avec le soutien aux initiatives conjointes que nous avons prises, que ce soit la taxe sur les super-profits ou le référendum d'initiative partagée sur ces mêmes super-profits, que ce soit l'appel à la manifestation du 16 octobre, qui est appuyé par plusieurs des organisations de la NUPES et au-delà, par ailleurs, et je pense que ça va continuer. Et puis, nous préparons ensemble la bataille parlementaire qui va commencer la semaine prochaine, avec notamment l'élaboration d'un contre-budget commun qui permettra aussi de montrer que nous sommes effectivement l'opposition et l'alternative à la Macronie.
Est-ce que la NUPES n'est pas un peu perturbée, un peu déstabilisée par les tensions avec, par exemple, le Parti communiste, dont on sent bien qu'il ne joue pas toujours exactement la même musique que la France insoumise, ou aussi, par exemple, avec le malaise provoqué par les affaires Quatennens et Bayou?
Écoutez, on a des approches différentes sur un ensemble de sujets, mais à l'heure actuelle, le Parti communiste fait toujours partie de la NUPES. Après, ses représentants peuvent avoir des stratégies autonomes, mais il y a un accord sur un programme partagé que continue à porter l'ensemble des forces de la NUPES. Nous travaillons très bien dans les intergroupes parlementaires de chaque commission avec nos collègues de l'ensemble de la NUPES. Et puis, nous avons aussi à avancer, à construire des dialogues, des nouveaux dialogues sur des sujets par ailleurs auxquels nous sommes confrontés en tant qu'organisation, comme la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je pense que la NUPES va permettre justement de créer un espace où on va pouvoir échanger sur nos pratiques et s'aider mutuellement face à des questions qui touchent tout le monde, qui impactent tout le monde. Mais peut-être que nous, à la NUPES, nous assumons de les prendre en charge de manière collective et politique en essayant de garder notre boussole sur ces questions-là, qui est celle de la lutte contre les violences et d'avoir une approche humaniste et progressiste de ces questions.
À ce propos, justement, le premier secrétaire du PS était hier, à l'issue de ce séminaire, Olivier Faure a proposé la création d'un code de déontologie commun pour les partis de gauche sur ce sujet. Est-ce que c'est le rôle des partis, d'abord ? On entend bien que la question se pose. Le garde des Sceaux en a parlé hier, Éric Dupond-Moretti. Et puis, pourquoi un code pour les seuls partis de gauche ? Est-ce que ça a du sens ? Fabien Roussel, par exemple, pour revenir à lui, le premier secrétaire du Parti communiste, a proposé il y a quelques jours une charte de tous les partis politiques. Quelle est votre position ?
Il faut bien commencer quelque part. D'abord, je tiens à rappeler que c'est tout à fait légitime et c'est nécessaire que toute forme d'organisation, qu'elle soit politique, associative, syndicale, que les entreprises d'ailleurs qui sont tenues en tant qu'employeurs, quand on est dans un rapport avec des employés, c'est le cas de groupes parlementaires par ailleurs, on a des collaborateurs, des collaboratrices, etc. Donc d'une part, il y a la loi et ce que le Code du travail dit, nous sommes tenus d'assurer l'intégrité et le bien-être et la sécurité des salariés dans nos organisations, groupes parlementaires ou même organisations politiques, des fois il y a des permanents. Donc ça c'est d'abord la loi, il faut s'y tenir et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a dans un certain nombre d'organisations des veilles, des cellules de veille, des endroits, les RH comme on dit, où les employés peuvent venir pour signaler quand quelque chose se passe. Et les employés sont tenus de mettre en œuvre. Donc déjà ça, peut-être que le garde des Sceaux n'en a pas connaissance, mais c'est l'article 41-21 du code de travail qui le nécessite. Et puis, il y a de manière générale, oui, se sont mises en place, et c'est des débuts, c'est vrai que c'est encore très expérimental et qu'on tâtonne, mais c'est vrai que c'est d'abord les organisations qui ont le plus conscience de ces enjeux-là, donc nos organisations de gauche progressistes, etc., en dialogue avec le mouvement féministe, les organisations du mouvement féministe, sur les cadres qui permettent de prendre en charge et d'assurer l'écoute de la parole des femmes, nous avons les uns et les autres commencé à mettre en place cela. Mais y compris pour interpeller le garde des Sceaux et la ministre de l'égalité, supposément du gouvernement Macron, je tiens à rappeler que La République En Marche, ou en tout cas Renaissance, a aussi ce type d'instance. Donc vous voyez, c'est la nécessité de prendre en charge, assurer que la parole est écoutée. Et ensuite, je pense que c'est un début et c'est un appel qui est fait à toutes les forces politiques, effectivement, de dialoguer sur ces questions et de travailler ensemble. Et je pense que ça devrait être entendu comme ça plutôt qu'utilisé de manière politicienne.
Il y a eu donc coup sur coup, à peu près à une semaine d'intervalle, l'affaire Adrien Quatennens, puis celle de Julien Bayou. À propos de Julien Bayou, aucun des comportements qui lui sont reprochés ne pourrait relever de la justice. Est-ce que ça n'est pas tout de même le signe que ce mouvement, on peut dire de libération de la parole des femmes ou de mise en cause des hommes, est-ce que ça n'est pas aujourd'hui un mouvement qui n'a plus ni limites ni règles ?
Non, je ne le crois pas. D'abord parce que on parle d'une réalité qui est une réalité de masse, la question des violences sexistes, des violences sexuelles, et c'est un combat qui reste, et nous restons attachés à cette lutte, à cet engagement. Après, la manière dont on prend en charge ces questions-là dans nos propres espaces pose question, effectivement. Il y a tout un ensemble de comportements qui peuvent être problématiques, qui peuvent être inappropriés, qui peuvent être illégaux. Comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on a une réponse proportionnée au comportement, y compris pour faire en sorte que tout n'est pas mis au même niveau. Effectivement, il y a des actes extrêmement graves qui sont du domaine de la loi, qui sont du domaine de la sanction pénale, et il y a d'autres actes qui relèvent plus effectivement du comportement. Et à propos de chacun de ces actes, il faut comprendre comment on y répond en termes de formation, en termes de prévention.
Pas se retrouver sur la place publique.
Écoutez, après, moi je ne vais pas juger sur des affaires en cours qui sont en train d'être prises en charge, mais effectivement, nous pensons et nous avons dit qu'il faut apporter des réponses graduées en fonction des actes de manière proportionnée. C'est d'ailleurs notre conception plus générale de la justice en général, pas juste de la justice judiciaire, mais de pouvoir répondre à des actes avec intelligence et en apportant des solutions collective aussi.
Le projet de budget 2023 a été présenté lundi en Conseil des ministres. Un texte de responsabilité et de protection, a dit Bruno Le Maire. Un texte à l'euro près, a-t-il précisé. Mais pour vous, c'est un budget qui ne répond pas du tout aux besoins de la France. Est-ce que vous pensez pouvoir l'infléchir lors des débats ?
Et nous allons tout faire pour. Nous sommes en train de préparer toute une série d'amendements qui correspondent en partie à ce que nous avions déjà porté lors des débats de cet été. Et c'est fait en intelligence avec l'ensemble de la NUPES. Après, nous pensons que fondamentalement, ce gouvernement va droit dans le mur parce que il veut revenir au monde d'avant, au budget as usual, c'est-à-dire un budget qui, en vérité, est un budget d'austérité. Nous avons un gouvernement qui fait des prévisions gonflé à l'hélium sur la situation macroéconomique en gonflant les chiffres sur la croissance et puis surtout qui reste attaché, et ça c'est ce que le gouvernement Macron a écrit noir sur blanc dans la lettre à la Commission européenne, aux restrictions budgétaires. Et ça se fait au détriment des besoins sociaux, des besoins écologiques qui sont énormes. Donc en fait, le problème vis-à-vis de ce gouvernement, c'est qu'on a une toute autre logique. Nous pensons qu'il faut partir des besoins. Et ensuite, du coup, voir en fonction de ces besoins-là, comment est-ce qu'on fait pour ce que la richesse qui est produite, et il y a de la richesse qui est produite.
Et où on trouve l'argent aussi.
Voilà, justement. Et c'est ça la question. Quand on insiste sur la question sur la taxe sur les super-profits, c'est pour dire aujourd'hui...
Ça évolue sur ce point. Vous avez vu qu'un économiste de l'Union européenne dit qu'il faut le faire.
Exactement. L'Union européenne, l'ONU, la Commission, plusieurs pays européens ont déjà mis en place ce type de mesures, et on voit comment la France, d'Emmanuel Macron, est complètement à la ramasse sur un sujet qui pose la question du partage des richesses, mais aussi de ceux qui ont beaucoup doivent pouvoir partager dans des moments de crise. Et ça devrait être le sens commun. Donc plus généralement, oui, on mènera la bataille budgétaire avec des amendements pour faire en sorte que ce budget ne soit pas, comme nous le craignons, un budget de casse sociale et d'inaction climatique. Et nous proposerons par ailleurs un contre-budget avec la NUPES qui donne à voir la véritable politique qu'on pourrait et qu'il faudrait mettre en œuvre.
Merci Daniel Obono. Bonne journée.
Merci.